charge électronique que je vous ai envoyée, qui permet aussi de préparer les homélies du dimanche. Ni l'évangile du jour, ni le triomphe de l'orthodoxie n'ont rien à voir avec le carême. Ce sont simplement, dans un cas, des circonstances historiques pour le triomphe de l'orthodoxie, et dans l'autre cas, ça arrive assez souvent dans le dictionnaire byzantin que ça n'est pas un rapport direct avec le temps liturgique ou la fête, mais c'est comme ça. Souvent, vous savez, chaque église avait son propre lectionnaire dans le premier millénaire. Après, on a plus ou moins harmonisé. Après, tout le monde s'est aligné sur Constantinople. Souvent, ça vient de très loin, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Souvent, c'était simplement des usages qu'on a gardés. Mais on va quand même en dire un mot. Je vais dire un petit mot de ce que représente le triomphe de la foi orthodoxe, un mot sur le carême, un petit mot de Nathanaël. Et c'est quand même utile par rapport au carême. Le triomphe de l'orthodoxie, c'est pas le triomphe d'une partie de l'Église. C'est pas un triomphe, on va dire, ecclésial. C'est le triomphe de la vérité sur l'erreur, de la foi orthodoxe sur les hérésies. Alors, ça mérite peut-être d'en dire deux mots. Après la paix de l'Église, c'est-à-dire après 313, mon Église était libre. Mais sont survenus, d'ailleurs dès le IIe siècle, des pensées inexactes sur le Christ, et sur son enseignement. C'est ce que nous appelons des hérésies. Hérésie en grec, c'est-à-dire choisir. C'est-à-dire, je n'en prends qu'un bout, mais ne réchauffons pas. On doit prendre toute la révélation telle qu'elle est, mais aussi toute l'écriture. On n'en prend pas qu'un bout. Le Christ, il est Dieu et homme. Il n'est pas soit Dieu, soit homme. Oui, c'est. Voilà. Et chaque fois que se sont levés des hérésiarques, c'est-à-dire des pères d'hérésie, c'est-à-dire des gens qui avaient des idées personnelles, ils se disent, oh, tiens, la vérité, c'est ça. Mais c'est pas personnel, la vérité, c'est communautaire, c'est ecclésial par définition. C'est les 12 apôtres qui nous ont transmis la vérité que le Christ nous a enseignée. C'est ecclésial, c'est pas moi, je pense que. Et au fur et à mesure que se sont levés des hérésiens, l'Église, elle a dû se défendre. Elle a dû défendre le contenu de la foi. C'est pour ça que c'est très important. Pourquoi est-ce que c'était très dangereux? Parce que pervertir la pensée de l'Église, c'est pervertir l'enseignement du Christ. C'est très dangereux. Donc on a été obligé de contrer et de dire, non, la foi, c'est ça. Et, en général, on a réuni des conciles. C'était des conciles qui concernaient l'Église entière. Donc on a dit, œcuménique. L'œcumène en grec, ça veut dire le monde habité. Ça veut dire des conciles de la terre entière. Parce que le contenu concernait la terre entière, même si parfois il n'y avait pas des évêques qui venaient de tout l'univers, ça dépendait des circonstances historiques, mais le contenu concernait l'humanité entière, la totalité de la création. Il fallait que l'Église réponde. Alors, la plupart des conciles ont été des conciles christologiques, qui avaient trait à la personne du Christ. Et à ses deux natures, bien sûr. Et in fine, je dis in fine parce que c'est le dernier concile qui a dû traiter la chose de septième, est apparue une hérésie qu'on appelle l'hérésie iconoclaste. Mais il ne faut pas croire que ce soit quelque chose d'insignifiant. C'est pas seulement j'aime les icônes ou j'aime pas les icônes. C'était un problème théologique grave. Est-ce qu'on peut peindre l'image du Christ ou pas? Accessoirement de l'homme. C'était un problème grave. Alors, d'où c'est venu? Bon, c'est l'empereur Léon III les Oriens qui a inventé cette horreur-là dans les années 726. D'où c'est venu? Certains historiens pensent qu'il y a une influence de l'islam. C'est que l'islam interdit la représentation de Dieu. Mais d'abord parce qu'on ne connaît pas Dieu, c'est une monade impénétrable dans l'islam. Et donc on ne représente ni Dieu, ni les hommes, ni le visage humain dans l'art islamique. Certains pensent parce qu'il y avait déjà une forte pression de l'islam, même si l'Empire byzantin à l'époque n'était pas directement menacé, il y avait une forte pression de l'islam. dès le 7e siècle. Mais ce qui est probablement plus vraisemblable, c'est qu'on pourrait dire que c'est un succédané du monophysisme. Le monophysisme, c'est l'hérésie qui, au fond, durait plus longtemps. Ça a duré des siècles et des siècles. Ça apparaît au 5e siècle, mais ça dure. Ça dure encore, on pourrait presque dire. Alors, en fond, quelle était la base? C'était de dire le Christ est Dieu et homme, mais au fond, la nature humaine, elle a été complètement intégrée à la nature divine. Au fond, elle a disparu. C'est ça la thèse vraie des monophysites du départ, ceux qui se réclamaient d'Eutychès, l'hérésiarque. C'est au fond, la nature humaine, elle a été absorbée. Alors le Christ n'est plus qu'un Dieu, il n'est plus homme, si elle était absorbée. Mais ce que vous vous rendez compte, c'est gravissime. Alors évidemment, ils disent, ah non, hein, pas d'image, ça c'est l'idolâtrie. Mais c'était gravissime au plan théologique. Ce n'était pas un problème d'image ou pas d'image, ce n'est pas un problème esthétique, ce n'est pas un problème d'archéologie. C'est, est-ce qu'il est encore un homme? Et là, on s'est battu. Là, il a fallu se battre. Et c'était dur, parce que se battre contre l'empereur, se battre contre l'armée, contre la police. Il y a eu énormément de martyrs, notamment des moines, mais pas seulement des moines. On s'est battu. Il y a d'innombrables icônes qui venaient de diminuer l'église qui ont été détruites. On a badigeonné les fresques, on a cassé les mosaïques, on a brûlé les icônes. C'est une horreur. C'est pour ça qu'on a très très peu d'icônes très anciennes. Parce que ça a été brûlé en général. Il n'y a que quelques très vieilles icônes qu'on a conservées au Mont Athos, au Mont Sinaï, tout le reste a été brûlé. C'était un combat terrible. Et on s'est battu. Et on a fini par réunir un concile œcuménique en 787, deuxième concile de Nicée, qui a proclamé définitivement qu'il était légitime de représenter le Christ et les saints et de vénérer les icônes. C'est une vénération, ce n'est pas une adoration. On ne vénère pas le morceau, on n'adore pas le morceau de bois. On adore le Christ peint sur la planche. On n'adore pas la peinture ou le bois. Et c'est pareil, on vénère le saint qui est représenté, la mère de Dieu et les saints. Vous voyez, c'est une vénération, ce n'est pas une adoration. Parfois dans le texte, on voit, on adore ton icône. Mais c'est faux, on n'adore pas l'icône, on adore le Christ, on adore Dieu. Donc, le 7e concile œcuménique a dit, c'est légitime, et c'est normal, c'est théologique. Et il a édicté des règles. C'était des règles très strictes. On ne représente jamais le Père Céleste, parce qu'il ne s'est pas incarné. On ne représente le Saint-Esprit que sous forme de colombe. Alors, ces règles ne sont pas respectées. Sous l'influence des jésuites, en Europe centrale, au XVIIe, XVIIIe siècle, allez voir dans les îles orthodoxes, on voit des pères célestes, des vieux pépés barbus. J'ai vu ça en Roumanie. J'ai dit à Monseigneur Joseph, mais Monseigneur, c'est une hérésie. Il m'a dit, oui, Père Noël, j'ai raison. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne faut pas la badigeonner. J'ai dit au moins qu'il mette un écriteau en bas et qu'il dise, c'est une hérésie. Quand même, c'est scandaleux dans ces églises orthodoxes. On ne représente pas le Père céleste. Il y a beaucoup d'autres règles très très importantes auxquelles on doit se conformer. Bien, mais comme il arrive en général dans l'histoire de l'Église, on a réuni un concile, c'était comme ça à Nicée, ouf, merci mon Dieu, puis après ça repart. Parce qu'il y a un nouvel empereur persécuteur. Donc quelques années après, on a recommencé à persécuter. Ça a duré 130 ou 140 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente dans une vie humaine? Un siècle et demi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a cinq générations d'êtres humains dans une famille qui n'ont connu que ça. Et comment résister à l'empereur? Il faut être courageux, il risque sa vie. Nous voyons ça tous les jours, même s'il n'y a plus d'empire, mais ils existent sous nos temps. On risque sa vie. Donc on a encore eu beaucoup, beaucoup de martyrs, beaucoup de confesseurs de la foi. Et miracle, comme souvent fait le Seigneur. Il avait déjà fait ça avec Constance II, qui était un empereur persécuteur. On ne savait pas quoi faire avec ce Gugus. Il avait soutenu les Nestoriens puis les Monophysites. Il faut le faire quand même. Il est mort d'une chute de cheval. Ouf. Et c'est sa sœur Pulchérie. Grâce à ça, on a pu réunir le 4e conseil des communiques. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'à peu près pareil. L'empereur Michel III est mort. C'était un persécuteur. celui qui vénère les icônes. Et sa femme, la veuve, l'impératrice Théodora, elle n'était pas du tout de cette opinion. Et grâce à Théodora, le patriarche Méthode de Constantinople a pu proclamer solennellement la restauration définitive de la vénération légitime des icônes. Et il a réuni un concile local à Constantinople, et dans ce concile, on a rappelé et confirmé les décisions du 7e concile œcuménique, Nicée II, et on en a profité pour rappeler les 6 précédents. Vous voyez, donc ça faisait toute une synthèse des 6 grands conciles qui avaient permis d'élaborer l'expression de la foi de l'Église. La foi n'est pas nouvelle, on a toujours cru à cela, comme disait Père. C'est l'expression de cette foi. Et c'est devenu quelque chose de très important par rapport à la foi orthodoxe. Et ce dimanche-là, je crois le 11 mars 1843, il y a eu une grande procession entre le palais impérial et Sainte-Sophie, qui n'étaient pas loin l'un de l'autre, et on a porté des icônes avec l'impératrice et le patriarche. Voilà, donc c'est devenu une très très grande fête, et après on a commémoré toujours dans l'église orthodoxe au premier dimanche de carême, et souvent dans les cathédrales on voit qu'on fait une procession et des icônes. Moi je l'ai vu souvent faire, je suis allé souvent qu'on célébrait à la cathédrale grecque. Alors nous à la fin, on ne va pas faire parce que ce n'est pas très très commode, mais par contre on va faire le triomphe de l'orthodoxie dans le sens dogmatique du terme. Ça, c'était le premier élément que je voulais vous indiquer. Ça a un rapport, vous savez, avec le carême. Je vais dire un mot du carême maintenant. C'est un rapport, en fait, avec le carême. Le carême n'est pas contre la chair et le sang. Comme dit saint Paul, le combat n'est pas contre la chair et le sang, le combat est contre les esprits sous ciel. Le combat est un combat spirituel. La chair est bonne. L'homme a été créé bon par Dieu, et la nourriture que Dieu nous donne est bonne, il n'y a rien d'impur. Mais le carême a en vue de nous rappeler la hiérarchie des valeurs. Voilà, c'est que, en premier, ce n'est pas nourrir mon corps. En premier, c'est nourrir mon âme. Et mon âme ne peut se nourrir dignement que de Dieu. On peut la nourrir de plein d'autres choses, bien sûr. Mais dignement, ce à quoi l'âme aspire, l'âme de l'homme, c'est la rencontre avec Dieu. Donc Nathanaël va nous donner un très bon exemple. C'est à ça que nous aspirons. Et pendant la période du carême, au fond, on s'alimente autrement. On mange moins bon et moins bien, parce que nous allons vers Pâques, et que Pâques représente le banquet céleste, c'est le banquet final, hein, qui représente la fête, la grande fête eschatologique. Mais surtout, on apprend à rétablir la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire je me préoccupe d'abord de mon âme, d'abord de Dieu. Le reste ensuite est moindre, d'une façon moindre. C'est ça le vrai esprit de la sainte du carême. Si on ne l'a pas présent, un esprit, on passe un peu à côté. À quoi ça sert de dire « j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de manger ça » Oui, mais si on ne voit pas la finalité spirituelle, ça ne sert pas à grand-chose. Et Nathanaël, je vais quand même dire un tout petit mot. Alors, c'est un très très bel évangile, mais qui aurait plus sa place après la théophanie, bien sûr. Hein, ça n'a pas sa place ici, mais ça ne fait rien. Le Christ, il vient d'être baptisé par Jean dans le Jourdain et il veut remonter en Galilée parce qu'il va d'abord évangéliser la Galilée. Il vient là où les gens sont malades parce que les gens de Jérusalem pensaient ne pas être malades. Donc il va d'abord dans la Galilée des nations, il va rentrer. Et il a déjà appelé quelques disciples et probablement parmi les disciples de Jean, il voit Philippe et il dit « Suis-moi ». Il vient tout de suite. Ça, c'est la grandeur. Viens, suis-moi. On raconte rien, on y va. C'est ça la foi. Puis Philippe rencontre quelqu'un, Nathanaël, qui est probablement un autre disciple de Jean, ce n'est pas dit dans l'évangile, mais probablement. Et donc Nathanaël dit cette chose extraordinaire, Philippe dit cette chose extraordinaire à Nathanaël, alors qu'il était un juif très très pieux, Nathanaël. C'est style pharisien, je ne sais pas s'il était, mais style pharisien. Très pieux, très 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 connaisseur de la loi, le mettant en pratique. Et il lui dit cette chose incroyable. Mais tu sais, on a rencontré le Messie. C'est fou quand même de dire ça. On attendait depuis 2000 ans quand même le Messie. Et il dit, tu sais, c'est le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Le rabbi, c'est le rabbi de Nazareth, fils de Joseph. Mais vous savez, le Christ, il apparaissait comme tout le monde, il n'avait rien d'extraordinaire. C'est un homme comme tout le monde. Et il dit, c'est le Messie. C'est incroyable d'entendre ça de ses propres oreilles. Nathanaël, il fait la remarque d'un vrai juif. Il dit, Nazareth, il ne peut rien sortir de bon de Galilée. Mais oui, parce qu'il savait que le Messie devait venir de Bethléem. Il le savait par les prophètes. Il le savait parce qu'il connaissait la prophétie de Michée. Mais c'est la réaction immédiate d'un juif pieux. Donc c'est une réaction normale. Il dit, qu'est-ce que ce machin-là? Et là, Philippe fait cette très 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 belle réponse. Viens et vois. Il n'a pas fait de baratin. Ça veut dire quoi? Parce que ça n'a l'air de rien. Viens, mets-toi en route et vois, ouvre tes yeux. Le Christ dira plusieurs fois cette parole. Viens et vois. Super. Au fond, il nous a dit tout ça. Viens et vois. Mets-toi en chemin, reste pas dans ton fauteuil, dans tes certitudes, et ouvre tes yeux, pas ceux-là, ceux du cœur. Viens et vois, superbe. Il le fait avec Nathanaël, il vient. Rien, une très 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 belle chose dans cet enfant, qui est très très belle, très émouvante, on pouvait dire, qui touche le cœur. Le Christ va d'abord dire quelque chose à Nathanaël. Il dit, toi, t'es un vrai juif. Il n'y a rien de tordu en toi. T'es réglo. Vous savez, au fond, Nathanaël correspondait à ce que disait Jean-Baptiste. Ouvrez la voie droite pour le Messie, qu'il aille direct dans votre cœur. Rabotez, rasez, comblez, direct. Soyez pas tordu. C'est ce qu'il dit Jean-Baptiste. Le Christ dit, toi, t'es un vrai juif. T'es pas tordu, t'es droit. Sidéré, mais tu m'as. Mais on ne se connaît pas. Mais d'où me connais-tu? Vous avez vu, c'est le Christ qui a pris l'initiative. Parce que peut-être Nathanaël n'aurait pas su que dire. Entre parenthèses, pardonnez-moi, je vous le dis parce que on oublie toujours de le dire. Mais on devrait l'écrire dans les livres et sur les murs. Aucun juif n'a jamais dit à Jésus: où es-tu né? Aucun. On l'a condamné parce qu'il était galiléen. Mais qu'est-ce qui empêchait de dire où tu es? Rien ne nous empêche de demander à Dieu cela. Dieu accepte de vérifier quand le doute est vrai. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le Christ lance la balle chez Nathanaël. Nathanaël attrape la balle et répond. Mais d'où me connaît-il? Et le Christ lui dit qu'il s'est passé un miracle. Il dit, quand tu étais sur le figuier là-bas, je t'ai vu. Et qui, je ne peux pas le voir, le figuier. C'est évident, même si ce n'est pas dit dans le livre. Nathanaël se dit, c'est le Messie. Vous vous rendez compte? Rien que pour cela. Il dit, Rabbi, tu es le Messie et le roi d'Israël. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Il est devant un homme comme vous et moi. Et il dit à cet homme, Rabbi, tu es le fils de Dieu, c'est incroyable. Ça montre aussi qu'il y avait chez les Juifs pieux quelque chose d'extraordinairement profond. Ils croyaient vraiment que le Messie qui allait venir était le fils de Dieu, c'était quelque chose de très très fort. C'est aussi un bel enseignement pour nous. Les Juifs pieux attendaient le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu et le roi d'Israël. Ça c'est important pour les Juifs. Et là, le dialogue est enclenché et le Christ lui dit, seulement parce que je t'ai dit cette chose insignifiante que je t'avais vue, tu as confessé la vérité, mais vous verrez des choses plus grandes encore. Vous verrez des choses plus grandes encore. Et il dit cette chose qui est très étonnante, vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire que les anges vont s'écarter et vous verrez le trône divin. Vous aurez la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette chose encore plus étonnante, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est une phrase assez étrange, assez mystérieuse. En fait, elle a un sens théologique. Je crois que le Seigneur annonce déjà la fin de sa mission terrestre, c'est-à-dire l'ascension. À l'ascension, vous vous souvenez, dans les beaux textes du canon byzantin, les anges disent « Écartez-vous, laissez-le passer ». Donc c'est les cieux qui s'ouvrent. C'est une extraordinaire révélation du divin, du lieu divin qui nous est donné. Et monter et descendre, regardez, c'est comme, un peu comme une échelle. Qui monte et qui descend? Ce sont les serviteurs. Je crois que ça veut dire ceci. Les anges montent et descendent. C'est le signe qu'ils servent le Fils de Dieu. Quand il est dans les hauteurs, assis sur le trône avec le Père et l'Esprit, et quand il est en bas, quand il est incarné, vous voyez, ils montent et descendent. Le Christ a dit, à un moment donné dans l'Évangile, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. » Vous voyez, il y a cette montée et cette descente. Je crois que là, il annonce l'ascension. Les anges témoignant qu'il est Dieu et homme, ne comprenant pas, mais témoignant. Le Maître, l'heure de la divine Trinité, descendu sur terre en bas, et les anges font le lien entre le haut et le bas. Ils montent et descendent. Ils montent parce que étant homme, il est Dieu, et il descend parce qu'étant Dieu, il est homme. C'est les deux. Je crois que c'est la confession de l'incarnation du Verbe par le monde angélique. Je pense qu'il annonce la finalité de sa mission terrestre, qui est l'ascension. C'est-à-dire que cette nature humaine qu'il a prise, il va l'élever jusqu'au trône de gloire de son Père. Voilà ce qui est sublime. Et c'est beau, malgré tout, qu'on dise cela au début du carême. C'est beau qu'on parle des icônes. Il n'y a pas de mépris de la matière dans la tradition spirituelle de l'orthodoxie. La matière de l'homme, elle est appelée à être déifiée, à être transfigurée. Et c'est beau qu'il nous soit rappelé, en ce début de carême, avant même Pâques, que le but ultime, c'est que nous partagions cela avec le Christ, d'être assis à la droite du Père. Et Dieu soit la gloire pour des siècles et des siècles.